Ouais,
je peux enregistrer.
Si tu veux, mais je vais voir après. C'est ça,
trois quarts d'heure.
Trois quarts d'heure. Bon. Je vais me mettre.
Plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure.
Ouais. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces temps d'enseignement, à la fois pour les enfants, on te prie de bénir ces temps pour eux. Et puis nous te remercions pour ce que Philippe a préparé pour nous, ce qu'il veut nous apporter de ta part. Nous te prions par ton esprit de nous aider à avoir des cœurs attentifs, des esprits ouverts, et à entendre ta parole et à chercher à la mettre en pratique. Amen.
Amen.
Seigneur, viens-moi en aide. Voilà, si j'arrive à faire un peu moins de trois quarts d'heure, peut-être quelqu'un pourra compléter ou apporter d'autres éléments. D'abord, je vous remercie beaucoup de l'invitation qui m'a été transmise par cher Pierre-Yves. Je sais que vous avez de l'affection pour nous et donc ça, merci beaucoup. Ça me touche. Voilà. J'aimerais dire quelques mots en rapport avec un titre que Dieu prend dans la Bible qui s'appelle « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Voilà. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est un titre qu'il prend dans le livre de l'Exode, au chapitre 15. Plus ou moins, chacun d'entre nous est concerné par des blessures morales, intérieures, des douleurs de cœur, des échecs, de la dépréciation, des handicaps divers, la maladie, qui nous atteignent tous et qui, par moments, nous font un peu douter, non pas qu'on perde la foi, mais notre foi un peu bousculée, nous fragilise. Alors, j'ai choisi quelques exemples pour essayer d'illustrer le fait que Jésus souhaite nous apporter une certaine guérison, des fois en nous remuant un peu, des fois avec beaucoup de douceur. Ces textes nous montreront que nos soucis ne vont peut-être pas disparaître, mais que nous allons voir la vie autrement, grâce à Jésus. Alors, je suis conscient que ce que nous allons lire, vous avez sûrement d'autres pensées à propos de ces textes, d'autres interprétations, j'en suis bien conscient. J'en vous propose une, voilà, une parmi d'autres, voilà. Alors, je lirai plusieurs textes, donc faites comme vous voulez, soit vous suivez dans vos bibles, soit moi je vais les lire et puis vous pouvez laisser les textes retentir en vos âmes. Je commencerai par ce qu'on appelle la parabole des talents dans Matthieu 25. On pourrait la lire en Luc 19, mais par rapport à mon propos, c'est préférable de la lire dans Matthieu 25. Verset 14. « Il en sera ainsi d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna à l'un 5 talents, dans ma version 5 sacs d'argent, à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla travailler avec eux et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser dans un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après que le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes, celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, 5 talents, et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent, donnez-le à celui qui a les 10 sacs. En effet, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y a des pleurs et des grincements de dents. » Jusque-là. Quel rapport avec la guérison, hein? Vous êtes en train de vous dire, là, il y a un problème. Il a l'esprit tendu. On va d'abord noter que cette parabole introduit une nouvelle façon de penser comment on accomplit son travail dans ce monde. Jésus introduit une forme d'évaluation qui n'avait pas cours à son époque. À son époque, on évalue encore avec la dynamique qui nous vient de la Grèce. On félicite le premier, le plus sportif, le physique le plus accompli. On est encore aujourd'hui héritier de ça, avec les Jeux Olympiques, la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Le reste, on connaît. Paul dira d'ailleurs dans son épître, je cours, le pape, le coureur, hein, il fait en sorte de gagner le prix. Donc c'est une coutume de l'époque. Jésus introduit autre chose et il dit, ben, chacun a reçu une mise au départ qui est différente. Aïe, là, vous vous sentez un peu concerné? Comment ça se fait qu'il y en a qui ont plus de qualité que les autres? Pourquoi j'ai reçu que ça et l'autre a reçu tout ça? Là, la blessure commence à jaillir. Pourquoi il y a des gens qui ont des multiples dons? Bon, petite parenthèse. Toujours est-il que, une fois que chacun a fait son job, il revient pour le maître. Et celui qui avait reçu 5, voilà, il a produit 5, celui qui a reçu 2, il a produit 2. Vous avez remarqué, bien sûr, souvent on l'a fait remarquer, que chacun est félicité, non pas pour son rang, il a produit 5, il a produit 2, mais pour ce qu'il a fait. Puisque chacun des deux reçoit exactement la même parole d'encouragement, la même parole de félicitation. Bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Ah oui, c'est peu de choses en fait ce qu'on produit, c'est vrai. Viens partager la joie de ton maître. Et celui qui a produit moins, avec ce qu'il avait, il a entendu la même chose. Cette façon de faire, elle ne nous a pas encore gagné dans notre civilisation, hein, je vous le dis. Enfin, ça dépend où, mais on peut. Il y a des sphères où ça se passe un peu. Et heureusement, l'Église a entendu ça depuis longtemps. Donc, chacun peut donc se dire, je porte moins de fruits? Non. Chacun peut se dire, quel fruit puis-je produire avec ce qui est ma part? Déjà ici, on nous invite à sortir de la maladie de la jalousie, de la comparaison. C'est pas dit en clair, mais on le sent, il y a quelque chose comme ça qui plane. Et puis bien sûr, la deuxième le son de cette parabole, elle est plus surprenante, elle nous dérange un peu, car qui n'a pas été un peu gêné par ce troisième là qui cache, qui fait rien apparemment. S'est-il lui aussi comparé aux autres? J'ai reçu si peu. Si seulement j'étais comme lui, si seulement j'étais comme celui-là, ça vaut rien ce que j'ai. J'ai pas reçu de vrais dons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le texte dit, j'ai eu peur. Est-ce que l'un d'entre nous est-il habité par la peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur parce que le Seigneur est tellement grand et moi tellement petit que je ne saurais jamais faire comme il faut? Le résultat de cette peur, a-t-il eu peur d'être sanctionné ou incompris? Il voulait tout maîtriser et ce n'était pas possible. C'est vrai que se lancer dans des projets, comme on fait les deux premiers, ça comportait sans doute un certain risque qu'il n'a pas voulu prendre. Il a calculé. Le maître, il est comme ci, comme ça, je vais cacher, je vais lui rendre. Mais l'histoire de cette parabole, ce n'est pas un calcul. Tout est grâce. Tout était grâce. S'attendaient-ils, tous ces gens-là, à ce qu'on leur remette quelque chose comme ça, gratuitement, en leur disant, allez-y, prospérez. Et lui, il n'était pas dans la dynamique de la grâce. Cette parabole m'invite à changer de perspective, à guérir cette déchirure en moi. Qui... Voilà. Si notre vie est marquée par cette peur, alors je suis dans les ténèbres de dehors, en dehors de moi. Je veux être où ? Je suis placé dans des ténèbres en dehors, dit-il. Vous savez, des fois, on dit « je suis hors de moi ». Mais où est-ce que vous êtes quand vous êtes hors de vous ? Voilà. C'est ça que veut nous dire cette parabole. Il va être en dehors, et quand on est en dehors de soi, c'est sanglots, grincement de dents, tristesse. Ce serviteur s'est créé sa propre représentation de Dieu. Alors, on va donner à celui qui a déjà. Ça, vous connaissez ça. Les gens qui ont déjà beaucoup de dons, il y a encore tel service à accomplir, et bien ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire, donc ils vont recevoir une nouvelle grâce. Une nouvelle grâce de recevoir encore en plus. Désirer avec ardeur des dons. J'ai déjà tel ou tel. Je vais en demander encore. Ben oui. On va lui donner. Parce qu'ils sont dans la logique de la grâce. Et celui qui est paralysé par la peur, ce qu'il a, on va lui ôter. Et celui qui n'a, il n'a pas. C'est ce que dit la parabole. Celui qui n'a pas, on va lui enlever. Pourtant, il avait un, mais pourtant, pour lui, il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'il n'a rien fait. Donc, c'est le texte, c'est ambiguïté, hein, je veux dire, celui qui n'a pas, on lui enlèvera ce qu'il a. Ah bon, c'est quoi qui ? Ben, il considère qu'il n'a rien. Voilà. Cette parabole nous invite à guérir de mésestime, de nous, de comparaison avec les autres, etc. Le premier, il est riche de quoi ? D'un appel, d'une vocation, de croire que c'est possible. Et donc, il n'hésitera pas à accomplir une mission supplémentaire. On pourrait dire que ça se termine par une parole paradoxale. Continue à ne pas faire confiance et tu vas connaître les affres de l'angoisse. Voilà. Alors, prenons le risque de la confiance et de la grâce. Je vous propose une autre parabole. La parabole du fumier. La parabole du fumier se trouve dans Luc 13, verset 6. Ils disent aussi une parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit, il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » C'est une parabole qu'on aime en fait parce que on se dit il faut toujours de la patience et puis ça finira par produire. Enfin voilà, donc voilà. Bon, sauf qu'elle est racontée d'une manière très incisive, particulière. Un figuier et il n'a pas porté de fruit. Là de nouveau. Quelqu'un se sent saisi et dit, ben c'est moi. À quoi suis-je utile ? Je ne sers à rien. Je vois bien celui-ci qui est parti en mission, celui-ci qui est porteur d'une œuvre extraordinaire, celui-ci qui prêche, celui-ci qui s'occupe des enfants, celui-ci. Et moi, je voilà. C'est un figuier qui produit rien. Ou encore, nous pensons avoir tout raté. Pas d'enfant, pas marié, j'ai perdu mon travail, je suis engagé dans rien. Je prie pour ma famille, mais personne ne s'est converti au Christ depuis tant d'années. Alors, cette parabole va nous faire entrevoir un espoir possible par rapport à ce dénuement. Voilà. Alors d'abord, creuser la terre. La terre, ah, creuser le sol. Tiens, la Bible, de quoi elle nous parle quand elle nous parle de cette... Voilà. Ah oui, il se souvient que nous sommes poussière. Un souffle qui passe et qui ne revient pas. Il se souvient que nous sommes poussière, le psaume 103 peut-être. Hein? Voilà. Nous avons été faits poussière du sol. Alors on va creuser. On va creuser ce que je suis. On va revenir à mon origine. Je vais revenir à mon origine. Ce que je suis. Un être humain. Cet être humain, il est comment dans la Bible, au début? Il a du mal à accepter qu'il est limité, qu'il n'est pas tout puissant. Mais il est fait de cette pâte humaine. Donc c'est Dieu m'a créé. On l'a chanté à des cantiques d'enfants, là. Dieu, il m'a fait admirable. Enfin, je ne sais plus comment c'est les paroles, là, tout à l'heure. J'aime bien dire, sous forme d'une petite blague, Dieu, tous les matins, quand il se penche dans la terre, te voit. Il voit Martine. Et puis il se dit, ah, c'est Martine que j'ai créée. Ça lui fait du bien pour toute la journée. Bon, et je le comprends. Eh bien, c'est comme ça pour chacun de nous. Fait de cet, on va creuser pour revenir à cette origine qui est, voilà, premier point pour la guérison. On va creuser pour retrouver. Qu'est-ce qu'on fait aussi quand on fait ça? C'est qu'on redécouvre nos racines. Voilà, d'où je viens, nos racines. Mais il peut y avoir aussi des petites, j'habite des petites racines d'amertume qui devraient ne pas produire fruits, des épîtres aux Hébreux. Hein? Voilà, donc on va nettoyer ça. Et on va mettre du fumier. Ah mince, là, on est moins content. Apporter du fumier, oui. Accepter que dans mon être, il y a aussi ces échecs dont nous parle cet arbre qui ne produit pas. Et je vais reconnaître que ça fait partie de mon être. Tout ce qui paraît dérisoire. Et donc, vous savez très bien, c'est paradoxal, mais c'est comme ça dans la nature. Quand on met du fumier, petit à petit, les insectes, les bactéries, les champignons du sol se chargent de transformer ça. Et à la fin, vous avez des fruits, vous les mangez. Bon, voilà. Donc, ça produit à partir de ce qui nous paraît des échecs de notre vie. Si on l'amène dans ce que nous sommes, au lieu de dire « j'aimerais être ceci, j'aimerais être cela, je ne porte pas, je me dénigre, enfin, etc. » C'est la tentation de l'origine, vous serez comme Dieu. Enfin, bon, voilà. Non, on n'est pas comme Dieu. On est des êtres limités, mais dans cette limitation s'accomplit le projet de Dieu. Donc, on va amener tout ça. Et c'est peut-être par des interventions extérieures, hein, ce fumier qu'on apporte, que nous, on va être transformés. Et peut-être que les fruits que nous allons porter ne seront peut-être pas ceux auxquels nous pensons. Car, avez-vous déjà remarqué, qu'est-ce que fait ce figuier dans une vigne? C'est tout à coup, on revient au début, on se dit, mais qu'est-ce que faisait un figuier dans une vigne? Bon, normalement, on aurait dû nous parler du raisin, du bon vin qu'on allait faire, enfin, etc. Mais, qu'est-ce qu'il avait fait de planter un figuier dans une vigne? C'est là que vous vous sentez un peu incongru, bizarre, je ne produis rien, je ne suis pas à ma place. Un figuier dans une vigne, c'est l'agroforesterie avant l'heure. Hein. C'est-à-dire, on sait que c'est très utile de produire de l'ombrage, et en particulier dans le climat méditerranéen, dont on nous parle dans ces textes. Nous, on le sait maintenant, hein, dans nos régions, le Gard, l'Hérault, les vignes sont cramées, brûlées en 2023, ça, parce qu'il y a trop de soleil. Et donc, on commence à réfléchir, à mettre des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, ils produisent des fruits dont une partie tombe au sol, qui fertilise aussi. Et puis, ça fait de l'ombre. Les travailleurs, à l'époque, alors ils construisaient des petits abris, on le sait bien, hein, on le voit dans les vignes, mais on construisait des petits abris, mais on pouvait aussi mettre des arbres fruitiers, puis on venait à son ombre. Et le figuier, dans la Bible, vous le savez, c'est cet endroit où on vient réfléchir. Nicodème, je te voyais sous le figuier. Voilà, c'est un symbole qu'utilise l'Écriture souvent, à l'époque, pour désigner ce temps où on réfléchit. Hein, puis le figuier, ça nous parle aussi de l'origine. L'origine, où on a pris des feuilles de figuier, etc. Hein, voilà, pour qu'on puisse se tenir dans notre dignité. Donc, par cette parabole du figuier situé dans un endroit qui nous semble incongru, mais qui a son utilité, nous sommes invités à reconnaître que là où nous avons été placés, nous allons produire quelque chose qui sera sans doute utile, pourvu que nous revenions à ce qu'est notre vraie dimension humaine avec ses limitations. Nous sommes invités à laisser le divin cultivateur nous ouvrir à cette fécondité. Bien sûr qu'au départ, il y a un peu une déception de ce qu'on... Hein? Mais ce n'est pas le seul exemple dans la Bible où on voit des gens qui expriment leur déception et qu'elle peut être transformée de manière extraordinaire. Le plus bel exemple que j'aime, c'est celui des compagnons d'Emmaüs. Hein? Voilà, les compagnons d'Emmaüs, profondément déçus par tout ce qui s'est passé, et qui disent, nous, on espérait. Vous espériez quelque chose, vous aussi. Et puis qui ne s'accomplit pas. Voilà. Et ils ont dit ça à Jésus. Et ils ont dit ça à quelqu'un qui ne savait même pas que c'était Jésus, d'ailleurs. Et donc, des fois, d'exprimer un ami, dire cette déception, alors on va pouvoir aider l'autre à ouvrir son horizon. Voilà, comme l'a fait Jésus et comme l'a fait cette parabole. Voilà, on va quitter le domaine des paraboles pour aller dans le domaine vraiment des guérisons, comme ça vous serez plus rassurés que je ne tire pas les trucs, je tire pas les cheveux, je coupe pas les cheveux en quatre. Je vais vous proposer la parabole de l'homme du pays des Gadaréniens ou Géraséniens, enfin plusieurs événements, je vais le prendre dans Marc 5. Le premier verset de Marc 5. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux. Il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, jour et nuit, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répondit-il. Et il suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, aussitôt, les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui s'était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais il dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi ?» Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole, la région des 10 villes, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient en détonnement.
Je peux parler plus fort,
Philippe. Je vais essayer. Donc là, on a un homme qui vient avec une déchirure, pas possible, à l'intérieur de lui. Il vit à l'écart du monde, mais il crie, donc tout le monde l'entend. Donc ça veut dire qu'il cherche en fait à rester en contact, mais il ne sait pas comment. C'est ce paradoxe. Alors il dirige l'agressivité contre lui-même. Il voudrait être guéri parce que dès que Jésus fut hors de la barque, l'homme vint à sa rencontre. Mais en même temps, le souhaite-t-il vraiment parce qu'il dit « Qu'est-ce que tu me veux ?» Vous voyez cette ambiguïté. J'aimerais aller mieux, je ne sais pas si je veux aller mieux. Ça arrive souvent, ça. Une dame nous disait récemment je ne sais pas comment ça serait si j'étais plus dans ce malheur. » Elle avait raison. Elle ne sait pas comment ça serait. Parce qu'elle est habituée au malheur depuis trop, trop longtemps. Et donc, c'est le cas de ce monsieur-là, qui vient vers Jésus, puis qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu me veux ?» Voilà. Donc, est-ce que nous sommes désarçonnés par ça? Est-ce que nous-mêmes n'avons pas aussi des va-et-vient comme ça? En fait, l'homme, il est décrit comme possédé, mais en fait, il est dépossédé de son humanité. Voilà ce qu'il fait vraiment. Il est dans une perte d'identité. Il ne sait plus qui il est. Parce qu'il dit, quand on lui demande « Mon nom est Légion, nous sommes nombreux. » Bon, alors, est-ce que ça n'arrive pas à quelqu'un? Un jeune, par exemple, qui est tiraillé aujourd'hui dans ce monde parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a le réchauffement climatique, parce qu'il y a les guerres, parce que le travail est instable, parce qu'il y a trop d'informations qui viennent, parce que les réseaux sociaux racontent des mensonges, parce que la vérité n'est plus là, parce qu'on est dans le monde de la post-vérité, parce que je ne sais pas ce que je vais devenir, parce qu'il y a trop de choix possibles, et donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Voilà. Il y a trop de voix, une légion dans ma tête. Ou bien, on va être quelqu'un d'autre qui est habité par toutes sortes d'idées noires, de peurs, de soupçons, qui pourrissent nos relations, même nos relations familiales, ou d'église, ou autres. Des idées mortifères. Bah oui, ils vivaient dans les tombeaux. C'est des idées mortifères. Qu'est-ce que ça veut dire, les idées mortifères? C'est les idées, vous savez, la Bible parle de chemin de vie ou de chemin de mort. C'est un texte qui est très célèbre, de Deutéronome, où Moïse a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Ça veut dire que dans notre cheminement se posent des choix comme ça. Non, d'ailleurs, moi je ne choisis pas la mort, mais bien sûr que Moïse n'est pas en train de parler de se suicider ou quoi que ce soit. Et de quoi il parle? Il ne parle pas de la vie éternelle. Il est en train de parler à des gens qui ont traversé le désert, comme chacun d'entre nous, traverse des moments compliqués pour, à la recherche de Dieu, et qui vont entrer dans la plénitude de la joie en Dieu, le pays de Canaan symbolisé, et là, leur vie, ben vous avez le choix, la vie, la mort. Ça veut dire que tous les jours de notre vie, on est devant ce choix, est-ce que je choisis la vie ou est-ce que je suis fasciné par ce qui me détruit, par ces sentiments noirs, par cette dépréciation, par ce que j'ai dit tout à l'heure, cet esprit de comparaison, par l'accablement à cause de la situation de l'Église. Enfin, voilà, chemin mortifère. Choisis la vie. Il ne parle pas en vue de la conversion des gens. Il parle à des gens qui connaissent Dieu depuis des années, Moïse. Donc à nous aussi. Voilà. Donc, peut-être que c'est ça ce qui encombre tout. Voilà, dans ma tête. Alors, Jésus lui demande son nom. Voilà. Là commence à pointer la guérison. Vous savez, des gens venaient nous voir dans l'accompagnement, disent « Oui, vous me dites ça, mais moi, dans mon église, on dit ça, dans ma famille, on dit ça. » Mais d'accord, mais votre famille, elle est là? Non, ma famille n'est pas là. Mais votre église est là? Non, votre église n'est pas là. Donc vous, vous êtes là, devant moi. Voilà. Jésus, il faisait beaucoup ça. Hein, quand les gens, même dans l'Ancien Testament, moi, je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu, de la plus petite. Voilà, Gédéon, il se cache derrière, je ne sais pas quoi. Voilà. L'Éternel est avec toi. Quel est ton nom? C'est le début de la guérison. Tu as une valeur en ton nom, car Dieu t'a créé. Et donc, quel est ton nom? Alors, là, lui, il révèle la difficulté, ce que je viens d'expliquer, c'est qu'il y a trop de choses qui s'en mêlent. Jésus le remet en contact avec son identité profonde, donne ton nom, mais alors là, il dit, il y a tout ça dans ma tête, il y a tout ça dans ma tête. Et au même moment, ces esprits, donc, disent, on pourrait partir. Tu me permets? Quand même, c'est formidable. Hein, au lieu de se dire, je suis hanté par toutes ces idées, je ne pourrais jamais m'en défaire. La présence de Jésus qui te dit, donne-moi ton nom, toi que j'ai créé, que j'aime, à ce moment-là, toutes ces pensées sont en train de dire, permets-nous de partir. Ce n'est pas des grands trucs magiques à la fois. Il n'y a pas besoin de convoquer une réunion spectaculaire, etc. Ces esprits vont demander à partir. Et ils vont partir où? Ils vont partir dans les cochons. D'accord ? C'est un animal impur. Donc, Jésus remet de l'ordre. Ce qui est mortifère part avec ce qui est impur. Et tout ça s'en va dans la mer. Et la mer, dans la Bible, ça symbolise l'endroit où Jésus a mis tous nos péchés, aux profondeurs de la mer. C'est l'endroit où il y a les naufrages, là où il y a le Léviathan. C'est là où il y a. C'est le symbole de tout le mal dans la Bible. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, on nous dit la mer n'existera plus. Bon. Donc, tout ça s'en va en ce lieu. Donc, il nous est possible de dire que la délivrance s'opère en disant que tout ce qui nous assaille, on peut dire à toutes ces pensées de partir, qu'elles ne sont pas nous, qu'elles ne nous concernent pas, que nous avons une vraie identité. Nous le faisons comment ? Par la présence de Jésus. Ce n'est pas juste une formule à répéter. C'est dans la présence de notre Seigneur, prince de la vie, vainqueur des ténèbres. Ainsi, l'homme est délivré. Alors ça s'est passé dans un tête-à-tête assez discret, loin du village, comme peut-être chacun en a envie. Peut-être on aura besoin que quelqu'un tienne à côté de nous, c'est possible aussi, pour cette délivrance. Alors il est désormais assis, il n'est plus en train d'errer, ça et là. Il se taillait de la chair maintenant, il était à moitié nu, il est habillé, il a retrouvé sa dignité, il est pacifié. Et voilà. Alors là, le dernier truc qui nous surprend, c'est que cet homme-là, il voudrait partir. Le village ne comprend pas ce qui se passe, donc lui, deuxième peine, hein, on pourrait dire. Là, au début, les gens voulaient l'enchaîner, maintenant les gens ne comprennent pas ce qui est arrivé, bon voilà, ils veulent chasser Jésus. Et donc c'est un bouleversement de retrouver notre identité dans le Seigneur. Et là, il voudrait partir avec Jésus. Et Jésus lui dit non. Ah ben quand même, Jésus avait une occasion extraordinaire d'avoir un disciple de plus. Mais oui, il a eu un disciple de plus, oui. Mais pas à l'endroit où cet homme pensait. Parce qu'il est dans un grand bouleversement, cet homme. Ça s'est passé en quelques minutes. Hein. Et il se retrouve vers la pacification intérieure. Et nous avons besoin de l'approfondir. Voilà. C'est pas la peine. Parce que sinon, il était dans une espèce d'addiction à des choses épouvantables. Et il va prendre Jésus comme une nouvelle addiction. Mais bien sûr. La foi peut devenir une addiction pour nous. Mon Jésus, je sais pas quoi. Oui. Attends. Prends le calme de cet instant de guérison qui vient de s'opérer, et puis tu vas en parler autour de toi. Et si on lisait les autres textes, on verrait que cet homme, c'est ce qu'il a fait, et qu'il y a plein de gens qui se sont tournés vers Jésus. Donc Jésus, il a bien trouvé un vrai disciple. Mais voilà, il sait ce qui s'est passé dans ce bouleversement, et nous devons prêter attention à ce qui se passe en nous, mais à ce qui se passe aussi dans les autres, dans ces chemins de guérison, afin de ne pas entraîner les personnes à toute vitesse dans des choses qu'ils n'ont pas encore saisies dans la profondeur. Ça vous va ? 28 minutes. Bon. Alors, j'ai un dernier texte, si vous voulez. La guérison de l'aveugle né dans Jean 9. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ? L'homme répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé, j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme ? Il répondit, je ne sais pas. Bon, les disciples étaient contaminés par une idée courante de la réincarnation, hein, puisque c'est lui qui a péché. Il a péché pour être né aveugle, dans une autre vie antérieure. Alors. Bon, ou alors ses parents, c'est-à-dire, soit c'est toi qui es responsable de ta maladie, soit c'est ton entourage qui est responsable de ta maladie. Bon, déjà, quand on a tout ça sur la tête, c'est compliqué de guérir. Hein. Voilà. C'est soit moi, soit mon entourage, etc. Ça fait surgir des tourments de culpabilité. Et je ne sais pas si d'autres gens avaient dit ça à cet homme, mais pff, ça lui faisait un fardeau. Hein. Ce qui t'arrive, c'est, ça vient de quelque chose. Hein. Alors, au contraire, Jésus va tourner dans le récit, il va nous tourner vers l'avenir et vers une nouvelle manière de vivre, ce que je disais au tout début. Une nouvelle manière de voir la vie, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, on pourrait lire le texte comme suit, sachant qu'il n'y a pas de ponctuation dans le texte original. On pourrait lire « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. » Point. Sur les points, c'est nous qui les mettons. « Mais afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Donc, il n'est pas devenu aveugle pour que Jésus fasse le miracle. Ben merci si vous croyez en un Dieu qui envoie, qui fait que les gens soient aveugles, pour que comme ça, un jour, ils deviennent guéris, je ne sais pas combien d'années après, ben, ouf, ce Dieu-là, c'est compliqué. Hein. Non. Il ne sait ni lui, ni ses péchés. Non. La question de la cause, Jésus ne l'aborde jamais. Mais il dit, en revanche, comme il faut que je travaille, les œuvres de Dieu vont être révélées en lui. Alors, depuis sa naissance, depuis très longtemps, peut-être que l'un d'entre nous n'a pas pu regarder sa vérité en face. Peut-être qu'une personne souffre, peut-être par certains côtés, chacun de nous des fois, peut-être qu'elle souffre de quelque chose qu'il ne sait pas. Quelque chose qui fait partie de sa vie depuis toujours. C'est trop douloureux. Et puis les circonstances se sont accumulées. Au point que je mendie ma vie. Donnez-moi un petit bout, parce que ma vie est trop dure à regarder. Ni lui, ni ses parents l'ont péché, mais des fois, il y a un fardeau. Il y a un fardeau de mon origine, que je ne connais pas. Pourquoi s'est passé ça en moi, dans ma famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, cette impossibilité de le regarder en face fait que je deviens mendiant. Donnez-moi au moins un petit bout de vie. Et les gens lui donnent un petit bout de vie. Alors, encore une fois, Jésus va prendre de la boue. Il y a plusieurs fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où on nous parle de ça. Jésus, il a écrit aussi dans la terre, en face de la femme pécheresse. Hein? Il a écrit avec son doigt, comme s'il refaisait la création, quand il a créé l'être humain, en prenant la poussière du sol. Il fait une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Donc lui, là, il prend de la boue. Encore une fois, comme tout à l'heure dans mon autre récit, il la mêle avec sa salive et il indique donc par là à cet homme de se réconcilier avec son origine. Peut-être pas tout à fait comme l'autre, c'était juste la terre, mais là, c'est son origine avec à la fois cette terre et ce qui vient de Dieu. Tu ne viens pas de nulle part. Il y a des hommes qui ont dû, dans l'Ancien Testament, c'était dit autrement, en général, ils allaient dans une caverne, comme Élie, dans le ventre d'un poisson, comme Jonas. C'est tous ces lieux qui parlent de matrice, qui parlent d'endroits où on va renaître, on va émerger de nouveau à quelque chose. Et là, c'est cette terre avec cette salive dans laquelle Jésus veut lui montrer qu'il peut trouver un chemin de guérison avec son origine. Et puis, il va te laver à cet endroit Siloé. Alors, Siloé, envoyé. Bon, là, il y a une dimension spirituelle qui est introduite. Jésus, c'est l'homme envoyé. Et donc, l'homme envoyé va te permettre de retrouver cette dimension de qui tu es. Notre lien avec le Dieu vivant a été parfois caché par l'aveuglement de notre douleur. Et nous verrions, si on avait lu toute la suite de l'histoire, comment cet homme qui au début dit, en parlant de Jésus, ben, je ne sais pas qui c'est. Voyez, c'est comme tout à l'heure, ces récits où il y a une progression qu'il faut laisser faire. Et petit à petit, il va découvrir, ah, c'est un prophète, puis à la fin, c'est le Fils de l'homme. Et donc, notre relation avec Dieu va se reconstruire progressivement dans notre guérison, de notre aveuglement. Voilà, je vais m'arrêter là peut-être. Voilà, bien, voilà. Peut-être quelqu'un voudra dire quelque chose de plus. Alors, dans nos déchirures, Si j'avais encore un peu de temps, je vous parlerais de la parabole de l'ivraie, mais je m'arrête là. Vous savez, la parabole de l'ivraie, c'est qu'on a tous cru semer des bonnes choses dans notre vie, avec l'aide de Dieu, bon grain, puis un beau jour, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose désagréable à l'intérieur de nous, qui s'appelle zizanie. L'ivraie, c'est le mot grec, zizanie. La déchirure, l'aigreur, la déchirure à l'intérieur de mon cœur. Mais comment c'est possible qu'il y ait ça dans ma famille, dans mon église? Et Jésus va dire, c'est pas la peine d'arracher. Tu vas continuer à vivre avec cette part d'ombre qui existe. Ça ne veut pas dire que ton ombre elle est merveilleuse, mais ça veut dire que tu vas cheminer avec ça aussi, qui existe en toi, dans le monde, dans ta famille, dans ton église, que tu vas y faire face sans laisser cette chose-là devenir t'envahir, bien sûr. Mais tu ne vas pas tout arracher, sinon tu vas aussi arracher tout ce que tu fais de beau. Voilà, tout ça c'est des paraboles de guérison. Dans nos déchirures, j'aimerais qu'on retienne, enfin voilà, ce que moi j'ai retenu, c'est que le but de Jésus, c'est de viser à notre délivrance, à notre pardon, au relèvement de notre dignité et à nous abreuver à la source de la vie. Alors, comme vous avez vu par ces différents exemples, Jésus n'a pas utilisé une méthode, parce que c'est différent chaque fois, des fois c'est des paraboles, des fois c'est des actes de guérison, des fois ce sera autrement, vous pourriez inciter. Et donc, aujourd'hui, on entend, « Ah, si tu prends telle disposition, ça va aller mieux dans ta vie. Si tu prends tel et tel chemin spirituel, là, ça va aller bien. Là, tu seras dans la guérison. Là, ton église sera bien. » Je n'ai pas vu ça. Voilà, je n'ai pas vu ça. Avec Jésus, ce qui compte, ce n'est pas la méthode. C'est la rencontre. C'est la relation. Il ne va pas supprimer les choses sans que nous, on lui parle de notre déchirure, qu'on la regarde, qu'on lui dise et qu'on soit prêt à lui exposer. Voilà. On ne peut pas utiliser Dieu, me semble-t-il. Mais nous pouvons accepter de le rencontrer en vérité, dans la vérité de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que nous sommes capables d'assumer. Et alors, cette rencontre, elle va se faire dans sa présence et dans sa grâce. Merci de votre attention.
Je propose que nous nous levions pour chanter le 143 de Reflet.